Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir au mouvement de contestation dans les Antilles françaises. Alors que des négociations avec le gouvernement doivent s'ouvrir ce jeudi, la Guadeloupe et la Martinique sont le théâtre d'une crise sociale marquée par une irruption de violence, avec des tirs d'armes à feu contre des pompiers et policiers, des barrages routiers, des véhicules calcinés, des incendies et des pillages. Tout a commencé mi-novembre lorsque les soignants guadeloupéens se sont mis en grève pour protester contre l'obligation d'être vaccinés contre le Covid-19. La Martinique voisine a rejoint la contestation lundi en se mettant à son tour en grève, mais les revendications vont au-delà de la politique sanitaire menée par Paris. Elles s'étendent désormais aussi à des problématiques économiques et sociales.
Il y a la vie chère, la hausse de l'essence et tout ce qui s'ensuit.
Il y a la farine, il y a tout. On crie la misère, on crie la misère.
Tout ce que les Martiniquais ont obtenu par rapport à la France, ce sont par des luttes. On n'est pas considérés comme des Français. Il faut qu'on se batte ici à chaque fois.
Voilà des témoignages qui illustrent la colère des Antillais. Alors cette crise était-elle prévisible? Quelles sont ses causes profondes? Et jusqu'où peut-elle aller? On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Luc Laventure.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction du média Outre-mer 360. Et nous sommes également en ligne avec Pierre Audin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université des Antilles en Guadeloupe, auteur de Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, paru aux éditions La Découverte. Alors Luc Laventure, je me tourne vers vous. Tout est parti de l'opposition au pass sanitaire et à l'obligation pour les soignants d'être vaccinés contre le Covid-19, avant que la contestation s'étende à des revendications plus économiques et sociales. D'abord, pourquoi un tel rejet de l'obligation vaccinale pour les soignants?
Alors, on va revenir sur les causes profondes. En réalité, j'allais dire que cette obligation fait partie d'une mauvaise méthode, d'une mauvaise pédagogie. On a voulu appliquer à des territoires qui ont des cultures totalement différentes, des cultures différentes de l'Hexagone et des cultures différentes entre elles, un schéma qui avait déjà du mal à passer au niveau de l'Hexagone. Regardez ce qui se passe chez les Bretons, regardez ce qui se passe chez les Ch'tis dans le nord de la France.
Effectivement, et regardez ce qui se passe aussi dans certaines régions françaises. Absolument, une défiance vaccinale qu'on retrouve.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vouloir appliquer sans détour le même schéma à des gens qui ont une esthétique de la relation à la mort, de la relation à la vie, de la relation aux médicaments, à la fois une esthétique et une sorte de côté environnemental avec ce qu'on appelle les rimes de rasier, etc., eh bien, je crois que c'est une façon d'arriver en frontal qui n'a pas été particulièrement bénéfique. Mais on peut balayer cela de revers de main en disant la chose suivante: cette crise sanitaire est devenue très très rapidement, je pense que c'est un faux problème, la crise sanitaire. La crise sanitaire, malgré ce manque de pédagogie, a révélé un problème plus profond, qui est une crise sociale et surtout une crise identitaire.
Alors Pierre Audin, cette crise sociale et identitaire qu'évoque Luc Laventure, à quel moment est-ce qu'elle a commencé?
Moi, je rejoins un peu Luc Laventure sur la question des aspects culturels de ce qui se passe ici. Après, je voudrais quand même souligner deux choses. Il faut se rappeler un peu, regarder au-delà de la contestation et de ce qui est avancé spontanément par les acteurs qui se mobilisent, quelle a été l'attitude de l'État. Depuis la seconde vague, il y a le gouvernement et l'État français qui ont incité les Français dans leur ensemble à retourner travailler. C'est-à-dire qu'il y a eu une priorité de l'activité économique et donc une injonction un peu individuelle et autoritaire à cela. Et dans un deuxième temps, il y a eu la question de la sécurité sanitaire et de prendre soin des autres et tout ce qui est normalement accompagné par le volet de l'État social. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation en Guadeloupe, quand on est confronté à des taux de chômage tels que ceux que connaît la population, il y a plus d'une personne sur trois qui est au chômage, il y a plus d'un jeune sur deux qui est au chômage, et par ailleurs, quand on sait les difficultés que rencontrent les services publics ici, ce sont deux arguments qui ne prennent pas. Donc, quand il y a des mesures de sanctions qui sont prises, comme elles ont été prises en novembre, alors qu'il y avait déjà
Vous faites allusion, Pierre Audin, à la suspension des soignants non vaccinés?
Voilà, la suspension des soignants non vaccinés, c'est vraiment cet élément qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'il y a une incompréhension totale par rapport aux arguments qui ont été développés dans le cadre de la politique sanitaire et qui sont perçus ici comme particulièrement punitifs, particulièrement autoritaires. Alors que, bon, comme dans tout un tas d'autres territoires, la Guadeloupe avait été confinée lors de la première vague et grosso modo, il y avait eu une discipline collective qui correspondait à ce qu'on avait observé à ce moment-là dans l'Hexagone. C'est la confiance envers le gouvernement et l'État central s'est progressivement érodée et le dialogue s'est progressivement rompu. Ce qui fait aujourd'hui aussi que quand on regarde la situation, il y a effectivement tout un tas de problématiques socio-économiques, culturelles et identitaires qui viennent se greffer sur cette défiance anti-vaccinale.
Alors justement, sur cette dimension identitaire, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une jeune femme gréviste. Elle est guadeloupéenne et vous allez l'entendre, elle nourrit un profond ressentiment contre la métropole.
Moi, je suis une Antillaise qui a vécu en France, qui a grandi en France. Moi, on m'a fait toujours comprendre que je n'étais pas chez moi en France. Alors aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis en Guadeloupe, je suis chez moi. Et j'estime que j'ai baissé la tête suffisamment pendant 40 années. Je ne vais pas baisser la tête maintenant. Je peux être la dernière ici à ne pas être vaccinée. Je ne me vaccinerai pas.
Luc Laventure, je vous vois hocher la tête en écoutant ce témoignage. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que finalement cette dimension identitaire, ce ressentiment vis-à-vis de la métropole, il est spécifique au territoire français ultramarin?
Regardez par exemple ce qui se passe dans le sud-est ou dans le sud-ouest de la France. On a quand même cette même crispation identitaire.
Mais l'histoire n'est tout de même pas la même. Là, on parle quand même de société.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Déjà, sur un territoire rétréci hexagonal, vous voyez déjà les différences de réaction. Donc, imaginez à des territoires qui sont à 7000, 8000, 12 000 kilomètres, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou encore l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte et les Antilles dans l'Atlantique, forcément les réactions sont totalement différentes. En réalité, je pense que cette crise identitaire est un révélateur, voire un prétexte à faire ressurgir un malaise profond. La dame qui vient de dire la chose suivante, j'ai baissé la tête. D'abord, je pense que c'est une mauvaise chose de dire qu'on a baissé la tête. Ça fait 40 ans que je suis à Paris, je ne baisse pas la tête. Et au contraire, il faut prendre les choses à bras le corps et regarder les choses en face,
ça,
et regarder les yeux dans les yeux.
Évidemment, c'est propre à chacun.
Ah, tout à fait. Mais elle traduit une véritable souffrance. Et elle a raison. Et je la comprends. Et je partage cette souffrance.
Mais cette souffrance que vous évoquez, Luc Laventure, elle est liée à quoi? C'est quoi? C'est un sentiment d'abandon de l'État vis-à-vis
non,
de ces territoires?
Non, c'est trop facile de dire abandon de l'État. Je pense qu'il faut arrêter de dire que l'État est responsable. Nous sommes tous co-responsables. C'est vrai que globalement, on peut dire qu'il y avait eu deux marqueurs qui avaient alerté les choses. Déjà en 2009, avec une grève qui a duré plusieurs semaines, qui a marqué la Martinique, même plus que plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis 2017, en Guyane, il y a eu deux marqueurs très, très profonds. Et on a l'impression que malgré ça, rien n'a bougé. On a pris le prétexte de la vie chère, mais en réalité, de façon sous-jacente, il y a cette question d'identité qu'on ne nous reconnaît pas. Et puis il faut dire également que les choses, depuis 30-40 ans, ont été figés du point de vue des idées. Et c'est vrai que la parole publique, la parole de l'État a du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la parole de l'État qui s'est discréditée avec le chlordécone, avec les sargasses.
Le scandale sanitaire, effectivement, lié à l'utilisation, on rappelle pour nos auditeurs sur le continent africain, mais c'est un scandale sanitaire, effectivement, qui a couvert les années à peu près 70-90, et on s'est rendu compte que cet insecticide qui était utilisé dans les bananeraies était en fait très cancérigène.
Absolument, mais même la façon de gérer, par exemple, les essais nucléaires en Polynésie. Et je reviens à l'expression de douleur de la dame qui vient de témoigner en disant « j'ai baissé la tête pendant trop longtemps ». C'est quand même grâce aux Outre-mer que la France quand même a une dimension internationale. Les essais nucléaires qui ont... Et on a payé l'impôt du sang, si je puis dire, dans le Pacifique. On a payé l'impôt du sang pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Antilles. Donc nous ne sommes pas des Français par hasard, comme d'autres personnes qui sont nées dans l'Hexagone. Nous avons vraiment payé l'impôt du sang. Et on a l'impression qu'effectivement, nous sommes des Français marginaux. Et cette crise identitaire montre notre volonté, non seulement d'exister, mais d'avoir notre place pleine et entière sur l'échiquier national et de porter ses couleurs sur le plan international.
Alors justement, Pierre Audin, quelles sont aujourd'hui très concrètement les revendications des protestataires et des grévistes, au-delà de la colère, hein, bien sûr, contre l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers?
Alors, ce n'est pas au-delà, hein, parce que la première revendication quand même des gens qui se mobilisent, c'est la réintégration immédiate à la fois des soignants et des pompiers qui ont été suspendus pour leur opposition au pass vaccinal. Parce que ça, c'est un peu le préalable à toute discussion quand on écoute les syndicats et ce qu'ils ont, voilà, que la façon dont ils s'expriment. Après, il y a aussi pas de revendications sur une vraie concertation autour d'un plan d'embauche massive pour la jeunesse ici, qui veut dire plan d'embauche massive, mais aussi pour la formation, parce que quand on parle des jeunes qui sont au chômage ici, on parle de jeunes qui sont aussi pas scolarisés, qui sont pas formés à un métier, en adaptation avec les besoins spécifiques qui se développent ici, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau des activités touristiques, que ce soit au niveau de l'environnement, il y a tout un tas de chantiers qui s'ouvrent. Et ça, les syndicats et un certain nombre d'acteurs politiques aussi le portent très clairement. Et puis, il y a quand même ce dossier brûlant aussi en Guadeloupe, qui est celui de l'accès à l'eau potable, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un foyer sur trois qui connaît des coupures extrêmement régulières d'accès à l'eau, et qu'on attend toujours de ce côté une intervention volontariste de l'État en concertation avec les élus, avec les populations locales. Vous voyez, c'est tout cet ensemble de revendications, c'est un peu ce qui se dessine prioritairement pour la Guadeloupe, et c'est ce qui est porté aujourd'hui par le collectif LKP qui a repris le chemin de la lutte, puisque c'est déjà lui qui était présent en 2009, et puis par tout un tas d'autres acteurs du mouvement social guadeloupéen qui l'ont rejoint sur cette base-là.
Et avec, on le comprend bien, effectivement, des problématiques qui touchent directement au quotidien des populations.
Décryptage sur RFI. Clémentine Pavlotsky.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à présent avec vous à la réponse du gouvernement français. Mais d'abord, je vous propose qu'on écoute cet extrait de la déclaration du Premier ministre Jean Castex. C'était lundi.
Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. J'ai donné toutes les instructions pour que l'ordre républicain soit rétabli et j'ai envoyé sur place des forces supplémentaires. J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité.
Alors effectivement, Paris a envoyé en renfort des renforts du GIGN et du RAID. Comment ces renforts sécuritaires, Luc Laventure, ils ont été perçus en Guadeloupe et en Martinique?
Alors je ne peux pas le dire parce que je suis très lâche, je ne dirai pas, je ne sais pas comment ça a été perçu en Guadeloupe et en Martinique, mais je pense que le problème est mal posé. Forcément, il y a des émeutes, forcément il y a des pillages. Il est normal qu'on fasse des mouvements de menton en disant la chose suivante, je reprends l'expression, l'ordre républicain doit régner. L'ordre républicain doit régner, le ministre de l'Intérieur Darmanin, qu'il s'agisse de Marseille, d'Agen ou d'ailleurs, envoie les troupes, envoie effectivement la police pour pouvoir remettre de l'ordre. Mais je pense que je reviens à ce qui se passe aux Antilles, en Guyane et un petit peu ailleurs. Je pense qu'en réalité, le problème, c'est l'absence de souffle, l'absence de perspective qu'il y a. Pierre Audin l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit le taux de chômage...
Absences de perspective pour la jeunesse,
60%
notamment.
De jeunes au chômage pour les moins de 25 ans, contre 15% pour les gens de l'Hexagone. C'est insupportable. Et cette absence de souffle, il faut que nous puissions, à un moment donné, tous le créer, régénérer les choses. Moi qui suis un vieux... qui a connu, non pas les deux dernières guerres mondiales, n'arrivez pas, s'il vous plaît, je dis la chose suivante. On a connu au cours des 50 dernières années, il y a 70 ans, la départementalisation, l'assimilation. Ensuite, il y a eu Césaire qui a poussé ce cri du nègre fondamental. Ensuite, il y a eu Glissant avec l'identité rhizome. Il y a eu Confiant, ça a continué. Et puis, brusquement, on a l'impression que tous ces... que tout s'est arrêté, tout s'est figé, et il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Et c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, les jeunes, sur le plan, ils sont dans l'anxiété totale. C'est-à-dire pas de travail, donc obligés de s'expatrier, si je puis dire, pour aller chercher du travail, et ne pas pouvoir rentrer parce que on est sur une économie à la fois fragile et post-coloniale qui est verrouillée. Donc, malgré l'inventivité de ces jeunes,
ils
se retrouvent dans l'anxiété la plus totale.
Voilà, les blocages sont totaux, et il y a peut-être effectivement cette idée de plafond de verre un petit peu au-dessus de leur tête. Pierre Audin, je vous repose la question. Du coup, est-ce que l'envoi de ces renforts du GIGN et du RAID a été perçu de manière négative sur place, ou est-ce que c'est au contraire un non-sujet?
Non, moi j'ai l'impression que ça a été perçu de façon très négative, parce que y compris pour les personnes qui réclament plus de sécurité, ou une partie des gens qui ne soutiennent pas le mouvement et qui s'y associent pas, ou qui se dissocient de toutes les violences qui peuvent être commises, ça soulève quand même un imaginaire, si vous voulez, de la répression mobilisée depuis l'extérieur. Bon, je me bornerai aussi à commenter le fait que depuis plusieurs années maintenant, on se rend bien compte qu'il y a eu une réponse de plus en plus répressive de la part des autorités vis-à-vis des manifestations du mouvement social, et que finalement, il n'y a pas forcément d'étonnement, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était quand même la réponse à une partie de la demande sociale qui était à laquelle nous avait accoutumé ce gouvernement. Mais je peux dire que depuis ici, c'est d'autant plus perçu comme quelque chose de dangereux, en fait, parce que on a l'impression que loin de favoriser une désescalade, c'est quelque chose qui ravive un imaginaire de la répression, comme ce qui a pu se passer en mai 67 en Guadeloupe, en février 74 au Chalvet, et même la dernière fois en 2009, où il y a un manifestant qui est mort, Jacques Binot, et où il y a eu aussi des moments de tension et d'affrontement.
Pierre Audin, est-ce que
vous... Pour toutes ces raisons qu'à mon avis, c'est mal perçu.
Pierre Audin, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on peut parler d'un climat insurrectionnel dans les Antilles françaises, ou c'est une expression qui vous semble un petit peu caricaturale?
Non, c'est une expression qui me paraît en partie caricaturale. Mais vous voyez, là, je suis en train de vous appeler depuis la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Bon, j'ai pu circuler entre les barrages, j'ai pu me rendre sur des lieux de blocage ce matin. Il y a effectivement des moments de tension sur les barrages, notamment entre les jeunes et les forces de l'ordre.
Et les forces de l'ordre,
effectivement,
oui.
Il y a des jeunes qui veulent en découdre, il y a des jeunes qui sont armés, il y a des jeunes qui s'adonnent à des moins jeunes aussi qui s'adonnent à des pillages la nuit venue. Mais on ressent pas pour autant un climat d'insurrection ou de guerre civile, parce que la majorité de la population guadeloupéenne, qu'elle se retrouve ou non derrière le LKP et dans ses revendications, elle n'aspire pas fondamentalement à ça. Elle a plutôt les yeux rivés sur les négociations. Donc oui, il y a des appréhensions par rapport à ce qui peut se passer, il y a des appréhensions par rapport aux violences, il y a des appréhensions par rapport à la répression, mais le climat est ni à l'insurrection, ni à la guerre civile véritablement.
Alors justement, vous parlez des négociations, une rencontre est prévue ce jeudi entre les autorités et les syndicats martiniquais, et puis en Guadeloupe, plusieurs élus doivent aussi participer à une visioconférence avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Luc Laventure, est-ce que vous pensez que ces discussions peuvent permettre de faire retomber la tension?
Oui, je pense que le moment de crispation va retomber. Et je pense que les ponts vont être remis. Je discutais de cela avec... Je partage totalement l'analyse de Pierre Audin avec un de ses collègues et confrères qui se trouve à la Martinique, qui s'appelle Patrice Bellune. Patrice Bellune est le secrétaire général de l'UNSA aux Antilles, et effectivement on partage le même sentiment, que il faut non pas gérer les choses comme on les a gérées en 2009 en disant la chose suivante: il y aura un petit peu, on va mettre 150, 200 euros de plus pour les bas salaires, etc., etc. Mais rebattre les cartes et donner aux gens une vraie perspective qui leur permet de donner du souffle.
Merci beaucoup, Luc Laventure, directeur de la rédaction du média Outre-mer 360. Merci également à vous, Pierre Audin, enseignant en sciences politiques à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. C'est un livre paru aux éditions La Découverte. Décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. Très belle soirée à tous sur RFI.
Priorité santé.